Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire, aujourd'hui, l'info du jour. À Rennes, la déchetterie mobile devient la trick-troc mobile. Le reportage de Louise lors du Girl Rock Camp, 3e édition organisée au Jardin Moderne. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Une interview pour annoncer une animation sur le thème de l'énergie à la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes. Et puis, la recommandation du jour, c'est de garder un œil sur le calendrier de Rennes antisexiste, dont les ateliers font un carton. Bienvenue dans l'arène. Allez, on commence cette émission d'information locale avec l'info du jour, une que j'ai sélectionnée parmi d'autres dans la presse locale. Et aujourd'hui, les journalistes étaient conviés à un point presse pour présenter Trick Troc Mobile en compagnie de Laurent Hamon. C'est le vice-président à Rennes Métropole en charge des déchets et de l'économie circulaire. Trick Troc Mobile, c'est depuis le début de l'année le nouveau nom de la déchetterie mobile qui a, elle, été lancée en 2019. Ce service, il se déplace dans plusieurs quartiers rennais, Maurepas, Clenay, Villejean, Le Blône, Bréquigny et le centre-ville, avec un objectif, collecter les objets dont les habitants n'ont plus besoin. La nouveauté, c'est que le rythme de passage s'accélère. En effet, la Trick Troc Mobile se déplace désormais chaque semaine dans 2 quartiers rennais contre un seul auparavant. Les plannings et horaires sont à retrouver en ligne sur le site métropole.rennes.fr. Par exemple, là, cette semaine, la Trick Troc Mobile est présente du côté de Villejean et puis en centre-ville. Pour rappel, les déchets qui peuvent y être déposés, ce sont les mêmes que ceux qu'on laisse en déchetterie, à savoir les encombrants, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les cartons, ferrailles, déchets dangereux comme les solvants et les peintures, mais aussi huile, pneus, piles ou encore textiles. Par contre, les végétaux, les gravats, le plâtre et l'amiante ne sont pas acceptés. Enfin, un espace de troc permet de laisser ou de prendre des objets en bon état, pratique. On peut par exemple récupérer des jouets, des livres ou encore des objets de puériculture, même des petits meubles. Et les objets qui restent, eh bien, ils sont donnés à des associations. Allez, après cette info du jour, on passe à un reportage. C'est un reportage qui a été réalisé par Louise, notre chargée d'administration, qui a promené son micro au Jardin Moderne. Durant les vacances scolaires, un Girl Rock Camp était organisé. Une 3e édition pour ce stage de musique à destination des adolescentes qui ont entre 14 et 18 ans. C'est l'âge où les filles décrochent le plus des loisirs. Résultat, une fois adultes, elles ne représentent, avec les minorités de genre, que 15 à 20% des pratiquants en musiques actuelles. Retour sur cette expérience du Girl Rock Camp, une semaine pour apprendre les rudiments du rock et puis monter sur scène pendant le concert de restitution qui était organisé samedi 2 mars.
Bienvenue au Jardin Moderne et surtout bienvenue à ce concert de fin du Girls Rock Camp. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Girls Rock Camp, c'est une semaine de rock pour des ados, filles ou minorités de genre de 14 à 18 ans. Ça existe depuis 3 ans et le but c'est qu'elles découvrent complètement l'instrument qu'elles vont jouer ou alors qu'elles jouent en groupe pour la première fois. Certaines parmi elles n'avaient jamais fait de musique tout court. Certaines avaient déjà un peu fait de musique, mais jamais dans ces conditions-là. Ce projet, il s'inscrit dans un contexte assez particulier. Aujourd'hui, que ce soit dans les studios de répétition ou sur scène, les femmes représentent seulement 15% de ce qu'on voit, en fait. Donc, c'est une répartition genrée assez extrême. Et l'idée, c'est d'essayer d'encourager dès le plus jeune âge à rétablir ce déséquilibre. C'est important de montrer aux jeunes filles qu'elles ont toute leur place sur scène et qu'elles font ça tout aussi bien que les autres.
Je suis chargée des relations publiques au Jardin Moderne. Le Girls Rock Camp, c'est donc une alternance d'ateliers de musique, de découverte d'instruments, de temps de prise de confiance en soi, de gestion du stress. Et ensuite, on monte des groupes et on crée des morceaux et elles composent. Et ben, du coup, elles ont monté 2 groupes. Le premier, c'était Light Dandelions avec Inès, Maëlle aujourd'hui, mais aussi Inès et Lucille qui étaient là toute la semaine. Et deuxième groupe, c'était Just a Girl avec Lou, Nila, Ellie et Mona.
Là, les jeunes filles viennent de descendre de scène, peut-être juste recueillir tes premières impressions et comment tu te sens là, maintenant.
Surtout, je suis super fière d'elles. Elles ont déchiré, elles étaient incroyables. C'est assez fou de les voir le premier jour, qui se regardent à peine, qui sont toutes gênées, qui sont encore timides. Et de voir l'évolution jusqu'à ce jour-là où elle déchire tout sur scène. C'est vrai que là, on a vraiment vu, sur la prise de confiance en soi, un réel changement. L'année dernière, on avait des filles qui étaient un peu plus âgées, qui avaient plutôt 16-17. Il y avait aussi des filles de 13 ans, mais elles avaient toutes elles étaient plutôt à l'aise. Ça les a évidemment beaucoup aidées et elles n'avaient jamais fait de musique comme ça. Mais cette année, on avait vraiment des profils un peu plus timides au début. Et on a vraiment senti qu'au fur et à mesure de la semaine, elles prenaient confiance en leur capacité à faire de la musique et en leur capacité à être incroyable. Et je pense que ça va vraiment avoir un impact après sur elles.
D'ailleurs, est-ce que vous savez si les jeunes filles vont continuer à faire de la musique? Alors certaines m'ont dit que oui, je ne les ai pas toutes vues. Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à ça?
Moi non plus, je n'ai pas eu le temps d'en discuter avec toutes. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles allaient continuer. Même celles qui n'ont pas pu faire le concert, parce qu'il y en a deux, Inès et Lucille, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Il y en a une qui était malade et l'autre qui devait partir aujourd'hui. Et les deux, elles m'ont envoyé des SMS pour me dire bon courage aux autres, mais en tout cas c'était super et j'ai trop envie de continuer la musique.
Et elles ont envie de continuer en groupe, parce qu'on sait que c'est ça l'enjeu aussi. Les jeunes filles qui apprennent la musique ne pratiquent pas forcément en groupe. Est-ce que là elles auraient envie aussi de se regrouper et de jouer en collectif?
Oui, carrément, je pense que ça fait partie de ce qu'elles ont le plus apprécié, c'est de justement créer un groupe et au fur et à mesure elles se sont soudées. Elles se connaissaient, enfin, il y en a quelques-unes qui se connaissaient, mais globalement, en tant que groupe, elles ne se connaissaient pas à lundi. Et là, vraiment, elles sont devenues proches et elles ont envie de se revoir. Il y a aussi une participante qui m'a dit qu'elle a fait venir des amis à son concert qui, eux, sont déjà musiciens et qu'ils lui ont proposé de jouer avec eux. Donc,
génial.
Ça part bien.
Finalement, si on est une jeune fille à Rennes, comment on fait pour s'inscrire au Girls Rock Camp?
Alors, cette année, c'était un peu particulier parce qu'on avait des partenariats avec des structures qui avaient la priorité sur les places. Et donc on pouvait pas ouvrir nos autres places tant qu'on ne savait pas combien de personnes étaient inscrites. Donc c'est pour ça que c'était un peu difficile de s'inscrire, parce qu'on n'avait pas ouvert les inscriptions. Il y avait quand même des personnes qui m'avaient écrit dès l'année dernière et qui étaient sur liste d'attente et qui m'ont relancé, notamment Ellie, elle m'avait écrit en février 23 et elle m'a relancé en septembre. Et du coup je lui ai dit je te réserve une place. On avait donc un partenariat avec le collège Clotilde Vautier. L'année dernière, il y a des jeunes apprentis journalistes qui sont venus. Et en fait, suite à leur passage en apprenti journaliste, elles ont demandé à refaire le camp côté musicienne. Et les autres, c'est un peu de bouche à oreille entre la liste d'attente de l'année dernière. Et puis, on avait quand même ouvert, suite à un désistement, un appel sur les réseaux.
Une question aussi sur le style musical choisi. Ici, on est sur un girls rock camp, donc le style est bien le rock. Alors pourquoi le choix de ce style et pourquoi pas un autre?
Je trouve que le rock c'est quand même une des esthétiques où il y a quand même des instruments qui sont très genrés. Donc on a plein d'exemples en tête de guitaristes hommes, de bassistes hommes, de batteurs hommes. Et il y a quelques figures connues qui sont des femmes, mais une fois qu'on a dit nos deux noms connus, on sait un peu plus trop. Donc là l'idée c'est aussi justement de donner d'autres modèles de représentation. Ça nous permet aussi d'avoir des super intervenantes qui sont locales et qui sont spécialistes de ces instruments-là. Il se trouve qu'il y a d'autres camps qui sont en train de fleurir sur d'autres esthétiques. À Saint-Herblain, l'Armada organise un girls camp qui est dédié plutôt au rap et au hip-hop. À Saint-Malo, ils sont un peu dans un entre-deux avec des musiciennes, mais pas nécessairement sur du rock. Mais nous, l'idée, en tout cas, c'est vraiment d'avoir ces instruments rock qui sont genrés. Et ensuite, si ça sort du rock, c'est super. On aurait pu les laisser aller sur une autre esthétique, mais en tout cas, la base, c'est vraiment les instruments parce qu'ils sont genrés. Si on laisse les choses telles quelles, on a de toute façon plus de garçons qui vont faire des instruments rock et monter des groupes que de jeunes filles. Donc l'idée, c'est de mettre en priorité l'accès à ces jeunes filles pour qu'on puisse rétablir cet équilibre-là et qu'ensuite, on espère que dans plusieurs générations, ce sera plus un problème.
Dans le café. Les cafés, c'est vraiment le lieu de vie, le lieu de rencontre, puisqu'il est un peu à la croisée de tous les espaces du jardin. On va croiser là, en ce moment même, les gens qui vont répéter, les gens qui vont rentrer dans la salle de concert pour suivre le concert, les gens qui sont à la formation, et c'est un lieu de vie qui est aussi un lieu de concert, mais qui la semaine est plutôt un café et le midi un restaurant, donc c'est là où on se trouve. Et le concert a lieu là de restitution, juste à côté dans la salle de concert. Alors je suis Gladys Lebihan, je suis co-directrice administration au Jardin Moderne.
Pourquoi ce Girls Rock Camp se passe ici au Jardin Moderne?
Il y a quelques années, il y a tout un travail qui avait été fait par le secteur des musiques actuelles autour d'une prise de conscience de la place, de la non-place en l'occurrence, des femmes dans la musique. On les voyait beaucoup dans les conservatoires, mais ensuite on les retrouve pas sur scène, on les retrouve pas dans les groupes. Et le Jardin a décidé de prendre en main cette question-là. L'idée, c'était justement de pouvoir mieux compter et justement mieux prendre en considération cette pratique et d'augmenter de 5% la pratique des femmes et l'accueil des femmes dans les studios chaque année, en mettant en place des choses pour que ça s'améliore et pour pouvoir permettre à des personnes qui aujourd'hui s'autoriseraient pas à jouer ou à monter des projets artistiques de le faire. On a tout un tas d'actions qui vont être vraiment dans cette même veine de l'idée d'accueillir et de favoriser les pratiques pour justement permettre aux personnes d'être là que pour la musique et de se libérer de quelque chose. On a tout un tas d'actions qui vont être vraiment dans cette même veine de l'idée d'accueillir et de favoriser les pratiques et notamment de favoriser les pratiques sur des temps en non-mixité choisis pour justement permettre aux personnes d'être là que pour la musique et de se libérer de quelque chose. Donc on va avoir par exemple des apéros musiciennes régulièrement où les musiciennes se rencontrent pour échanger sur leurs pratiques et sur leurs projets. On va avoir des ateliers de MAO qui sont portés notamment par Salut les Iquettes. On a aussi la semaine prochaine, on accueille des événements aussi de valorisation du matrimoine. Là, en l'occurrence, le matrimusique show la semaine prochaine. Où l'idée, c'est vraiment la valorisation aussi de la pratique des femmes dans la musique pour créer ces modèles et ensuite, toujours pareil, créer l'envie de monter des groupes, de monter des projets, de faire des projets artistiques.
Je m'appelle Hilary Galbraith et je suis venue au Jardin Moderne pour répéter. Et puis, il se trouve que c'est au moment que la restitution du Girls Rock Camp, donc je suis venue voir.
Mais qu'est-ce qui t'a attirée? Pourquoi tu as voulu venir voir cette restitution?
Je trouve que c'est très important d'avoir plus de filles et plus de femmes dans la musique. Ça reste très, très masculin. Donc voilà, je suis venue soutenir ça.
Mais toi, qu'est-ce qui t'a amenée à venir répéter au Jardin Moderne?
Je fais de la batterie depuis 3 ans et je viens au Jardin pour avoir accès à une batterie déjà, mais j'ai aussi fait les ateliers, les Salut les Iquettes au Jardin, donc c'était grâce à ça que j'ai commencé à me sentir bien dans cet endroit et de rencontrer du monde. Donc il y a aussi une dimension sociale de la musique qui est assez importante pour moi. Les ateliers Salut les Iquettes, ça a commencé à Paris il y a quelques années. Et c'est pour des personnes en minorité de genre qui n'ont jamais fait de la musique ou qui ont fait, mais un peu dans leur coin, qui n'ont jamais osé faire avec les autres. Donc c'est un atelier sur 2 jours d'empowerment pour les femmes et les minorités de genre pour lancer leur projet.
Satisfaite parce qu'on a travaillé quand même pas mal de temps sur ça, on n'avait pas
Au final, on n'avait pas tant de temps pour composer. On a bien joué.
J'étais très très stressée avant, mais j'ai plutôt bien réussi. Et les choses qui n'étaient pas forcément claires avant étaient devenues très claires sur scène. Et puis bah, juste voir le monde qui était vraiment genre satisfait, content d'être là, ça m'a encouragée. Et donc vraiment, je suis super super excitée et je suis super contente aussi d'avoir fait ça parce que c'est, je trouve que c'est un super moyen d'apprentissage aussi, la place de faire plein plein d'années de musique. Moi, je m'appelle Inès, j'ai 14 ans, je suis en 3e à Clotilde Vautier, j'habite à Saint-Grégoire.
Je m'appelle Louane, j'ai 14 ans et je viens aussi du collège Clotilde Vautier.
Je m'appelle Nila, je suis en seconde à Saint-Martin.
Moi, j'avais comme rôle d'être apprentie journaliste entre guillemets. On a fait des affiches et pris des photos durant tout le concert.
Est-ce que vous retenez un moment particulier dans la semaine ?
Moi, je dirais déjà quand on est arrivé, qu'on a commencé avec les musiciennes à prendre en main les instruments. Parce que bah, c'est... moi, j'attendais depuis longtemps quand même de tester la guitare électrique, du coup, ce que j'ai joué aujourd'hui. Et ouais, c'était vraiment sympa de pouvoir enfin tester ça.
Tu n'en avais jamais joué avant ?
Non, moi j'étais sur la guitare classique, j'ai commencé bah, cette année, il n'y a pas très longtemps. Et ouais, c'est vraiment sympa, je vais continuer avec ça, je pense, je vais essayer d'en trouver une et de jouer chez moi.
Et est-ce que tu vas continuer la pratique collective ?
Bah, ce que j'aimerais vraiment, c'est jouer dans un groupe, là, j'ai pu tester. Ça me fait vraiment plaisir, j'aime beaucoup faire ça. Et ouais, il y a pas mal de choses que j'aimerais faire et il y aurait besoin d'un groupe.
Et toi Inès, est-ce que tu avais déjà pratiqué un instrument avant de participer à ce Girls Rock Camp ?
J'ai jamais pratiqué un instrument, j'ai déjà fait du piano, mais c'était très très vite fait et c'était pas du tout acquis. Mais donc là, c'était ma première fois avec un instrument.
Est-ce que tu penses continuer cette pratique instrumentale à la sortie de ce Girls Rock Camp ?
C'est sûr, je vais continuer d'une manière ou d'une autre parce que j'ai beaucoup aimé cette semaine-là et je voulais faire de la batterie depuis très longtemps, mais juste faire des années de solfège, des années, c'était pas forcément un truc qui m'attirait de fou. Et je savais même pas si j'allais vraiment apprécier, même si je rêvais un peu d'en faire. Mais là, grâce à ce stage-là qui a été très court, bah en fait, ça m'a permis un petit peu de voir un peu l'instrument. Et je m'y suis sentie à l'aise. J'ai pris du plaisir, donc je me dis que je pourrais continuer. Après, il faudrait voir au niveau des cours, le coût, quand c'est, etc., pour que je cale ça dans ma semaine à chaque fois.
Je précise simplement aux auditeurs et aux auditrices qu'une odeur de feutre permanent vient d'envahir notre petit plateau, puisque nos jeunes musiciennes ont des demandes d'autographes. Ces autographes viennent d'être signés sur un prospectus, un flyer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc toi, tu étais apprentie journaliste, tu avais un peu de recul sur ce Girls Rock Camp.
Bah du coup nous en tant qu'apprentis journalistes, on a d'abord fait des sortes d'affiches et tout en respectant les couleurs que les musiciennes avaient dit un peu qu'elles aimaient et ça leur représentait le groupe. Et du coup bah on a essayé de faire en sorte que ça leur plaise, mais on espère que ça leur plaise du coup. Mais bah du coup après on les a distribués aux spectateurs pour qu'ils puissent avoir un souvenir et voilà.
Vous avez travaillé plutôt sur des morceaux rock. Est-ce que vous écoutez du rock ou alors est-ce que vous écoutez tout à fait autre chose ? Est-ce que vous avez un artiste ou une artiste préférée ou un style privilégié ?
Moi, j'aime beaucoup les musiques des années 70 à 90. Mon objectif, c'est de pouvoir jouer assez bien de la guitare, de la basse, des trucs comme ça, pour pouvoir faire des sons qui ressemblent un peu à ça parce que je pense que les styles de musique ont beaucoup évolué. Et ouais, il y a des sons comme ça que j'aimerais bien un peu retrouver maintenant parce que ça se fait moins. Et je trouve que ce serait sympa quand même retrouver un peu des trucs dans ce style.
Moi, j'écoute de tout en même temps, j'écoute pas trop de tout. J'écoute surtout de la pop, rock, punk, anglais, français, surtout. Et en artiste, j'aurais plutôt dit Maneskin, qui est un groupe de rock. Après, les plus connus, Lana Del Rey, Billie Eilish, Katy Perry, Girl in Red.
Alors, des artistes plutôt féminines ?
Souvent. J'en écoute un petit peu masculin, notamment dans Maneskin, il y a 3 hommes, 1 femme. J'écoute aussi un peu Pierre Demar. Maintenant, j'écoute plus de femmes que d'hommes.
J'ai pas été là au début de la semaine, mais c'est impressionnant ce qu'elles ont réussi à faire en à peine une semaine. Franchement, j'avais l'impression que ça faisait un mois ou quoi qu'elles répétaient, et du coup, bah, franchement, bravo à elles.
Est-ce que t'as un dernier mot à ajouter, Inès ?
Bah écoute, merci pour du coup bah, cette interview et bah merci à tout le monde quoi.
what am I supposed to do? Tell me, what am I supposed to do? What am I supposed to do? 'Cause a bitch, she locked me up in a cage.
Up in a cage.
Yeah, the bitch, she locked me up in a cage. Well, I dealt with abuse.
Dealt with abuse.
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 'Cause a bitch, she locked me up in a cage.
Up in a cage.
Yeah, the bitch, she locked me up in a cage. Well, I'm always in the way.
In the way.
Cage par Sally Ford and the Sound Outside, un titre parfait pour rester dans l'énergie du reportage sur le Girl Rock Camp. À ce morceau, vous pouvez le retrouver sur l'album Dirty Radio. C'était le premier disque de cette formation américaine menée par Sally Ford, un album sorti en 2011, deux ans avant que le groupe ne se sépare. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr, un site où vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions réalisé par les salariés et les bénévoles de la radio. Allez, on poursuit l'émission avec l'interview du jour. Cécile Dubois-Salès, bonjour.
Bonjour.
Cécile, vous êtes chargée de la communication à la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes, qui est installée à deux pas de la gare. Et on annonce ensemble un temps d'échange sur l'énergie. Le rendez-vous, il est donné vendredi 15 mars de midi à 17h30 dans vos locaux. Alors le prix de l'énergie, il a atteint des records dans l'Union européenne et donc en France en 2022, en lien entre autres choses avec la guerre en Ukraine. On nous parle en ce moment d'une baisse du prix du gaz, mais dans le même temps, le gouvernement met fin progressivement au bouclier tarifaire qui était en place jusqu'à présent. Est-ce que, quand on est une maison de la consommation et de l'environnement, on voit le nombre de simples citoyens inquiets qui arrivent avec des factures qui explosent augmenter?
Ah oui, mais c'est catégorique. Ça fait partie des préoccupations primordiales des personnes qui viennent. En fait, c'est souvent lié à des logements qui sont très énergivores. Et donc, du coup, on est obligé d'énormément chauffer, notamment en janvier où il y a eu une grande période de très grand froid. On a vu beaucoup de gens débarquer avec des factures très conséquentes et puis être complètement démunis sur comment régler le problème.
On rappelle que en France, le pourcentage de personnes qui sont en situation de précarité énergétique, il tourne autour des 12%. Il est assez stable, mais la situation peut s'aggraver en fait pour ces personnes qui sont concernées. Les habitants en situation de précarité énergétique, ils se retrouvent donc à adopter des stratégies. Ils viennent peut-être auprès de vous chercher des recours parce qu'ils sont dans l'incapacité de payer, et puis aussi peut-être des bons conseils pour essayer de réduire la facture.
Alors, il y a des recours qui sont possibles auprès des fournisseurs d'énergie. Il y a aussi des aides qui sont possibles parfois auprès des mairies. En fait, on peut obtenir des aides. On peut obtenir un échelonnement des paiements donc auprès de ces fournisseurs. Et puis, on peut aussi donc, avoir quelques bons gestes pour atténuer la facture. Alors, l'idéal aussi, c'est d'investir dans des équipements moins
énergivores.
Moins énergivores, mais c'est plus coûteux à l'achat, mais on y gagne après. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a toute une réflexion aussi sur pourquoi autant d'énergie. Ça vient peut-être du vitrage qui n'est pas assez épais, des murs qui sont trop humides. Donc, il y a des choses à faire. Malheureusement, c'est souvent dans des logements sociaux, c'est auprès des bailleurs qui sont accablés de demandes similaires. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont possibles et on peut faire des démarches quand on sait ce qui existe.
Autre sujet, quand on parle énergie, on pense aussi aux énergies renouvelables, à la rénovation énergétique. Je me suis rendu compte, moi, que je recevais pas loin d'un appel par jour, à chaque fois d'un numéro différent, souvent sous forme de message vocal, donc de type démarchage pour de la rénovation, installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur, etc. A priori, je suis pas la seule.
Ah non, mais c'est horrible. On est harcelé. Ce qui est très problématique, c'est que la rénovation énergétique est nécessaire. Elle fonctionne quand elle est bien faite, quand elle est bien accompagnée, parce qu'il y a des dispositifs, il y a des aides pour ça. Le démarchage ne sert strictement à rien, d'autant plus qu'il coûte énormément d'argent pour des entreprises qui font ce démarchage-là, qui bénéficient du coup d'aides ou de subventions qui vont sur ce démarchage. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la tête. Alors en plus, ils harcèlent, donc parfois on a envie de lâcher, de céder. Et donc nous, on voit des gens arriver à la MCE avec des factures, mais d'un montant astronomique pour des choses qui ne sont pas en mesure d'accepter sur leur domicile, qui ne sont pas en mesure de payer, parce qu'il faut parfois payer avant d'obtenir les aides. Et puis finalement, parfois, il suffit de quelques mois pour que la réglementation a changé, et donc ceux auxquels on pouvait prétendre auparavant ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc on voit des gens arriver vraiment... pas que des gens en situation de pauvreté, hein, des gens qui ont une vie aisée et qui se font plumer en fait, parce que ils ont échangé avec une personne qui avait un beau discours et ils se sont dit c'est intéressant. Le démarchage est réglementé et en fait dès qu'on veut s'entrer dans une procédure de rénovation, faut comparer les prix, faut s'informer. À Rennes, il y a plusieurs structures qui existent pour savoir si c'est viable, si c'est nécessaire, si c'est la structure qui a pignon sur rue mais qui est pas dangereuse pour son portefeuille, avant de signer quoi que ce soit. Et même en fait, si on a signé, on peut toujours se rétracter. En fait, on n'est pas seul face à son portefeuille qui se vide, et on peut toujours trouver des solutions, même après avoir signé, même quand ça a commencé. Le consommateur est protégé, il a des droits, et il faut le savoir.
Alors, il faut dire que il y a bientôt un an, au printemps 2023, le gouvernement avait annoncé une lutte renforcée justement contre le démarchage abusif. Il existe notamment une liste d'opposition pour peut éviter là, ces appels qui peuvent être très nombreux liés à du démarchage sur de la rénovation énergétique. La Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes, on le redit, ce sont 29 associations. Le chiffre est bon, ça a augmenté.
Ça va évoluer dans l'année. Aujourd'hui, on est à 29 associations.
29 associations de défense de l'environnement, mais aussi des consommateurs, ce qui est peut-être le volet un petit peu moins connu de vos actions. Et vous organisez donc un temps d'échange vendredi 15 mars de midi à 17h30 avec les associations qui sont mobilisées sur les questions d'énergie. Elles seront toutes là, enfin celles de la MCE.
Oui, en fait, le 15 mars, c'est la Journée mondiale des consommateurs. C'est une date qui nous tient à cœur, et en fait, depuis que la MCE existe, on a essayé chaque année de manifester, de célébrer cette date. Donc auparavant, il y avait des tentes sorties place de la mairie, on faisait des grandes manifestations. Aujourd'hui, c'est les journées mondiales des consommateurs sont vraiment sur des thématiques. Il peut y avoir l'habitat, et donc cette année, on a choisi l'énergie. Juste pour rappel, en fait, cette journée mondiale des consommateurs, c'est une date qui a été choisie en référence à un discours de Kennedy, donc je crois en 62, donc un 15 mars 62. Et dans son discours, c'est une des premières fois où on a évoqué ce terme de droit des consommateurs. En fait, on était en pleine période de grande consommation, tous les portefeuilles étaient pleins, c'était la grande richesse pour tout le monde. Et en fait, on a commencé à avoir l'envers du décor, et donc on a quand même commencé à évoquer ce droit en tant que consommateur. On a des droits. Et donc c'est dans ce discours de Kennedy que ça a été évoqué pour la première fois. Et donc c'est en 83, donc l'année de naissance de la MCE d'ailleurs, que une organisation internationale a décidé de créer cette journée mondiale des consommateurs. Donc vendredi 15 mars, donc demain, les associations de défense des consommateurs de la MCE se sont mobilisées. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on travaille là-dessus et ont décidé, en fait, vu que l'énergie est vraiment la préoccupation qui grimpe en ce moment auprès des habitants, de faire un temps fort avec un focus sur l'énergie, avec donc différentes choses de proposer. Donc il y aura 6 associations qui seront présentes. Il y aura l'Indecosa CGT, il y aura la CLCV, la FOC 35, l'association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs, la CNL 35 et Famille Rurale. Et donc ces 6 associations sont très actives à la MCE. Elles font des permanences quasiment tous les jours dans nos locaux. Permanence physique, mais elles font aussi des permanences téléphoniques pour renseigner ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc demain, elles se mobilisent donc pour donner de l'information, des guides pratiques, des fiches. Et il y aura aussi des ateliers comme comprendre sa facture d'énergie, en fait, à quoi correspondent tous ces chiffres cumulés. Donner quelques billes aussi pour, quand on a un litige avec un fournisseur, comment on peut mettre en place un règlement de litige à l'amiable avec son fournisseur. Et aussi, il y aura toute une partie d'informations sur ce qu'on vient d'évoquer sur le démarchage autour de la rénovation.
Je détaille quelques-uns des sigles. Donc, la FOC, c'est l'association Force Ouvrière Consommateur, CLCV pour Consommation, Logement et Cadre de Vie, et CNL pour Confédération Nationale du Logement. Donc voilà, 6 structures en tout qui seront réunies durant l'après-midi du vendredi 15 mars à la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Il y aura donc des stands d'information, des ateliers sur les thèmes que vous avez évoqués. Aussi 2 expositions, mais qu'on peut voir tout le reste du mois, toujours à la MCE.
Oui, on a en complément, donc en écho à cette journée mondiale des consommateurs, on a installé 2 expositions donc autour du thème de l'énergie. Elles sont visibles jusqu'au 27 mars dans nos locaux. L'entrée est libre et gratuite aux horaires d'ouverture de la MCE. Donc 2 expositions complémentaires. Il y a une exposition pédagogique de l'ADEME sur l'énergie de demain, avec des panneaux sur comment se projeter en fait avec les ressources qu'on a, qu'on aura, qu'est-ce que nous on peut faire comme choix, comme installation au quotidien, et puis encourager aussi les élus, les collectivités aussi dans certains choix. Et donc cette expo, donc c'est des illustrations, des textes, est complétée par une très belle exposition de Yann Arthus Bertrand, pareil sur l'énergie de demain. Et c'est une exposition de la fondation Good Planet qu'il a mis en place, et ce sont des très grandes photos sur l'énergie aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour demain. Donc elles sont les 2 ensemble forment un beau duo d'exposition et permettent de compléter toute la programmation pour le temps fort de demain.
Et elles sont à voir jusqu'au 27 mars à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, qui est installée à 2 pas de la gare de Rennes, 48 boulevard Magenta.
Et en complément, donc il y a aussi le centre de ressources de la MCE, qui est comme une bibliothèque qui est accessible à tout le monde. Et au centre de ressources, on retrouve donc des livres, des magazines. On a aussi de nombreux DVD sur différents sujets. Et donc aussi des outils pédagogiques, des jeux, et notamment des outils pédagogiques sur le thème de la consommation et de l'énergie. Et c'est pas assez connu, parce que c'est souvent des animateurs qui viennent emprunter ces jeux, mais en fait c'est empruntable par le grand public. Il y a des jeux de cartes, il y a par exemple un jeu sur comment apprendre à gérer son budget. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on fera le dimanche après-midi, mais ça permet de proposer de nouvelles activités quand on veut organiser un temps avec le grand public.
Tout ça, c'est donc à découvrir vendredi 15 mars de midi à 17h30 à la Maison de la Consommation et de l'Environnement lors d'un temps d'échange qui est organisé sur le thème de l'énergie à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Cécile Dubois-Salès, vous êtes chargée de communication dans cette MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement. On retrouve tout le détail de cet après-midi, mais aussi du reste de vos actions en ligne sur le site mce-info.org. Merci beaucoup.
Merci.
Thank you. pour le glisser. Laissez le lisse pour le fêler. Laissez le papier glacé.
Poisa à l'orée sur Canal B, c'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio. Un titre extrait d'un album, Trouvé, perdu, c'est sorti le 1er mars. Un 7 titres qui constitue le 4e disque solo de ce musicien lyonnais. Vous venez de l'entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, qui vous tend son micro. Tiens, si vous avez des actions ou événements à annoncer aux auditeurs, du moment que ce n'est pas un événement purement lucratif et qu'il s'inscrit dans le champ de l'information locale, il peut être question de mobilisation sociale, de vie associative, étudiante, rurale, n'hésitez pas à m'en faire part par email à l'adresse lucie@canalb.fr et je reprends ensuite contact avec vous pour vous proposer un échange ici en studio, un reportage sur le terrain ou sinon pour en parler sous forme de courtes recommandations du jour. Et c'est l'heure. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast, de documentaire, pourquoi pas d'engagement aussi dans des associations locales. C'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Je voulais annoncer un atelier du collectif Rennes Antisexiste en partenariat avec le projet collaboratif Autoco, un atelier de création d'anneaux contraceptifs masculins. Ça se passe samedi après-midi à Rennes, mais, eh bien le rendez-vous, il affiche complet. Nous n'avions jamais reçu autant de demandes d'inscription si rapidement, racontent les organisateurs sur leurs réseaux sociaux, qui vont donc tenter d'organiser des ateliers plus réguliers et plus mobiles. Sinon, ils leur envoient à leur prochaine permanence mensuelle du 2 avril. Des exemplaires d'anneaux contraceptifs seront d'ailleurs en vente à prix libre et puis de différentes tailles. Le rendez-vous est donné de 18h à 20h, c'est toujours le premier mardi du mois, dans leur local qui est situé 22 rue de Brest à Rennes. Je vous laisse avec les mots de Camille, de Rennes Antisexiste, qu'on avait rencontré lors des semaines en santé sexuelle rennaise au printemps 2023, l'occasion de les réécouter prêcher la bonne parole en compagnie d'une autre association finistérienne.
Moi c'est Aurélien, du coup je fais partie du collectif Thomas Boulou dans le Finistère, voilà, qui travaille sur la contraception testiculaire et la responsabilité masculine dans toutes les questions de sexualité, etc.
Moi c'est Camille, je fais partie de Rennes Antisexiste, un collectif principalement de mecs cis qui travaillent sur les dynamiques antipatriarcales. Du coup, nous, on a un volet sur les contraceptions testiculaires, mais aussi on fait plein d'ateliers sur toutes les questions de consentement, de violence masculine, de sexisme de manière générale.
Donc Thomas Boulou, ça existe depuis 2015. En fait, on était un petit groupe de gars qui avaient envie, d'une part, de maîtriser notre fertilité et de travailler sur ces choses-là, de trouver des solutions en fait pour nous, et d'autre part, d'intervenir et d'interpeller les gars en général sur qu'il serait temps qu'on fasse des choses pour que ça bouge, quoi, que ça avance, qu'on prenne nos responsabilités, etc. On a fait des petites recherches, des lectures, on a un peu compris des choses et réussi à les synthétiser sur le fonctionnement de l'appareil génital, le fonctionnement des méthodes de contraception qui étaient quasiment inconnues à ce moment-là. Et puis on a diffusé pas mal et ouais, c'est vrai que c'est parti de chez nous un petit peu tout un grand mouvement aujourd'hui de développement de ces méthodes et en particulier la méthode thermique du remonte-couille. On a une permanence à Quimper, tous les premiers samedis du mois, où on accueille, on informe, on discute, et aussi on a l'atelier couture, on fabrique, on coud.
Bah là, sur le stand, il y a une table qui est plutôt sur les contraceptions testiculaires avec à la fois des BD, des brochures qui expliquent un peu les différents modes de contraception. Et il y a notamment une présentation de ce qu'on appelle la contraception thermique. Là, il y a deux outils. Il y a ce qu'on appelle le remonte-couille toulousain et l'androswitch, qui utilise la même technique, quoi. C'est un outil qui remonte les testicules pour qu'elles se recollent au corps et qu'elles redeviennent la température du corps, ce qui empêche la spermatogénèse. Elle revient dans la cavité, je ne sais jamais son nom.
Alors, c'est pas dans les cavités inguinales, mais à l'entrée, quoi. À l'entrée des cavités inguinales, donc dans l'aine.
Ce qui peut effrayer, c'est le fait que ça doit être porté sur une durée assez longue, non, c'est ça ?
Eh bien, il faut le porter 15 heures par jour, à partir du moment où on souhaite contracepter. Et au début, c'est pendant 3 mois, parce que la spermatogénèse, ça met 3 mois à se faire. Il faut donc 3 mois avant d'être contracepté. Okay. Et on fait un spermogramme pour vérifier qu'on a les bons taux de spermatozoïdes par millilitre de sperme, qu'il faut être en dessous de 1 million. Et quand on est en dessous de ce 1 million, on refait des tests de temps en temps et puis on s'assure qu'on est bien contracepté. Et ben, nous, on a un jeune collectif, on a lancé ça il y a à peine 6 mois. On est plutôt 7 à peu près, 6-7, mais on brasse plus de gens sur nos ateliers. Il y a des gens qui viennent pour une fois, d'autres qui viennent pour plusieurs fois, ça dépend. Alors les ateliers en ce moment c'est toutes les 2 semaines à peu près. Là il y en a un ce soir par exemple sur les violences masculines et comment réagir quand on nous témoigne de violence ou quand on est auteur aussi. C'est un peu le sujet de ce soir. Et on fait des permanences une fois par mois, de les premiers mardis du mois, sur les questions de contraception testiculaire.
Peut-être une question pour vous deux, qu'on soit à Rennes ou plutôt du côté de Quimper. Donc il y a des initiatives qui sont nées il y a un peu moins de 10 ans. On en parle plus, le sujet est quand même plus médiatisé ces dernières années. Au-delà de susciter la curiosité, est-ce que c'est dur de faire venir de nouveaux participants et de convaincre sur vos idées ?
Pour l'instant, c'est quand même, en tout cas nous à Rennes, c'est quand même pas mal des gens qui sont proches du milieu féministe qui viennent. J'ai l'impression qu'on a du mal à toucher un public large aujourd'hui. Pour l'instant, on touche quand même un petit cercle. Mais j'ai l'impression que c'est important d'abord de consolider ce cercle-là, même si on a envie très vite d'élargir la chose-là. Et nous, on est pas mal aussi à apporter le truc de s'autonomiser sur nos contraceptions et de le politiser aussi, et de dire ça touche les questions de violence, les questions de charges contraceptives, les questions de communication aussi, qui sont pas évidentes quand on est un homme.
À Quimper, nous, on n'a jamais fait de... beaucoup de publicité sur notre permanence, c'est le bouche à oreille en fait. Donc au début c'était nos potes, et puis après petit à petit les potes des potes, etc. Et il y a tout le temps du monde, hein. Tous les mois il y a tout le temps des gens. Et plus ça va aujourd'hui, plus c'est entre guillemets monsieur tout le monde, quoi. Avec quand même beaucoup de jeunes, trentenaires, quoi, on va dire.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.